Bonjour, c'est Cyril Riva, traduisant le podcast de 24 H, rédacteur en chef d'anesthésiologie. Nous nous retrouvons pour présenter les articles importants du numéro d'août 2022 qui ont été sélectionnés par les rédacteurs de la revue. Ce mois-ci, nous mettons en lumière les recherches sur l'utilisation à long terme d'opioïdes chez les patients opérés et les variations de prescription. La suppression du burst chez les enfants, les saignements incontrôlés chez les patients traumatisés et les nouveaux résultats de base potentiels pour une meilleure récupération après une césarienne. L'article de synthèse de ce mois-ci porte sur les infections du site opératoire et le microbiote du patient. Explorons un peu plus profondément les recherches du numéro de ce mois-ci. Nous commençons par une étude clinique qui cherche à savoir si le comportement d'un chirurgien en matière de prescription d'opioïdes est associé à la prescription d'opioïdes à long terme par les patients. Plus précisément, l'étude a testé l'hypothèse selon laquelle les patients de chirurgiens ayant une plus grande propension à prescrire des opioïdes sont plus susceptibles d'utiliser des opioïdes à long terme après une opération. Les chercheurs Xi Sen et ses collègues de la faculté de médecine de l'université de Stanford ont utilisé les données de Medicare pour identifier 600 000 patients ayant subi une arthroplastie totale du genou entre 2011 et 2016. Ils ont caractérisé les chirurgiens comme étant dans l'un des quatre quartiles de prescripteurs d'opioïdes, allant de la faible intensité à la forte intensité, en fonction de la quantité d'opioïdes qu'ils prescrivaient. Les chirurgiens à intensité élevée ont prescrit en moyenne 36 équivalents milligrammes de morphine orale par jour pendant la période périopératoire immédiate, contre une moyenne de 17 équivalents milligrammes de morphine orale par jour pour les autres chirurgiens. Les patients des chirurgiens à intensité élevée avaient des taux plus élevés de prescription d'opioïdes dans la période post-opératoire intermédiaire, jusqu'à 90 jours après l'opération, que ceux des autres chirurgiens, mais la différence était très faible, 11 contre 9 mg par jour. Mais à plus long terme, ils avaient des taux plus faibles de prescription d'opioïdes, 4 versus 3 mg. Ces différences n'étaient pas cliniquement significatives. Dans un éditorial, les docteurs Daniel Mac-Isaac et Karim Lada écrivent que cette recherche offre aux anesthésistes une occasion unique de trouver un équilibre entre le traitement individuel des patients souffrant de douleurs post-opératoires persistantes et le développement de nouvelles stratégies pour prévenir l'utilisation d'opioïdes à long terme. Lisez l'article gratuitement dans le numéro de ce mois-ci ou l'éditorial qui l'accompagne. Écoutez également le podcast de l'article vedette, une discussion avec l'auteur de l'étude et l'éditorialiste. Notre prochaine étude clinique porte sur la prévalence de l'électroencéphalographie isoélectrique péropératoire ou suppression des salves dans la population pédiatrique. Alors que la suppression des salves a été associée à l'hypotension et au délire post-opératoire chez les adultes, sa prévalence chez les nourrissons et les jeunes enfants subissant des interventions chirurgicales de routine n'est pas connue. Cette étude transversale d'observation prospective, menée dans 15 centres, a inclus 708 patients âgés de 36 mois ou moins subissant une intervention chirurgicale avec du sévoflurane ou du propofol. Sous la direction de Yan Yan, de l'hôpital pour enfants de Philadelphie, et de collègues du monde entier, les chercheurs ont constaté que des événements isoélectriques se produisaient chez un tiers des patients, mais qu'ils variaient selon les sites. Les événements étaient plus fréquents pendant la pré-incision et pendant la période chirurgicale. Les événements isoélectriques étaient plus probables chez les nourrissons de moins de 3 mois, l'utilisation de tubes endotrachéaux et le bolus de propofol pour la mise en place des voies aériennes après l'induction au sévoflurane. Aucune association n'a été trouvée entre les événements isoélectriques et le comportement de délire d'émergence. Bien qu'à 36 mois ou moins, les patients soient peut-être trop jeunes pour présenter un délire d'émergence, les auteurs soulèvent des questions sur les pratiques anesthésiques actuelles chez les nourrissons et les jeunes enfants. Pour approfondir le sujet, consultez gratuitement l'étude dans le numéro de ce mois-ci ou écoutez le podcast audio avec l'auteur de l'étude. Notre étude clinique suivante a porté sur l'efficacité de l'échange gazeux pulmonaire pendant l'anesthésie générale, telle qu'elle se reflète dans le développement des gradients de pression partielle. Ces gradients résultent principalement de la variation des rapports ventilation-perfusion alvéolaire dans le poumon, mais les gradients de pression partielle longitudinaux peuvent également y contribuer. Cependant, on ne sait pas exactement quelle est la contribution de la limitation de la diffusion dans la phase gazeuse en aval de l'arbre respiratoire, stratification longitudinale, ou au niveau de la barrière alvéolo-capillaire, en particulier pour les gaz de poids moléculaire élevés, comme les anesthésiques volatiles. Le docteur Philip Payton de l'Université de Melbourne à Melbourne en Australie à tester chez 17 patients si le gradient de pression entre la fin de l'expiration et la pression artérielle était plus important pour le desflurane comparativement au protoxyde d'azote. La gestion de l'anesthésie consistait en une surveillance cardiovasculaire de routine du patient. Le volume courant a été fixé à 7 à 10 ml par kilogramme avec une pression expiratoire finale positive de 5 cm d'H2O. Et la fréquence respiratoire a été réglée pour obtenir une pression partielle de dioxyde de carbone en fin d'expiration de 25 à 35 mg de mercure. Tous les patients ont reçu 2 à 3% de desflurane et 10 à 15% de protoxyde d'azote dans l'oxygène. Le gradient de pression partielle endotrachéale artérielle par rapport à la concentration inspirée était significativement plus faible pour le desflurane que pour le protoxyde d'azote. Néanmoins, après ajustement, les différences entre les gaz n'étaient pas physiologiquement importantes. Les auteurs ont conclu qu'il n'y a pas de limitation de diffusion supplémentaire cliniquement significative à l'absorption pulmonaire du desflurane par rapport au protoxyde d'azote. Notre prochaine étude clinique porte sur les hémorragies incontrôlées, qui est la cause la plus fréquente de décès évitables chez les patients victimes de traumatismes. Des tests tels que la thromboélastométrie rotationnelle, ou ROTEM, sont utilisés pour orienter le traitement de la coagulopathie induite par le traumatisme. Cette étude de cohorte observationnelle à long terme a été réalisée dans 6 centres de traumatologie européens de niveau 1 à Londres, Royaume-Uni, Oslo, Norvège, Copenhague, Danemark, Oxford, Royaume-Uni, Cologne, Allemagne et Amsterdam, Pays-Bas. Les chercheurs, dirigés par Romain Dujardin de l'hôpital OLVG aux Pays-Bas, ont recueilli des données telles que les caractéristiques démographiques des patients, le mode de blessure, le score de gravité des blessures, les signes vitaux, les résultats des tests de laboratoire à l'admission, ainsi que la mortalité à 12 et 28 heures. Ils ont également recueilli des informations concernant les quantités de transfusion de globules rouges, de plasma frais congelé et d'unités de plaquettes. L'étude a révélé que les taux de facteurs de coagulation et la mortalité dans le groupe présentant un allongement isolé du temps de coagulation étaient similaires à ceux des patients présentant un ROTEM normal. D'autres dérèglements du ROTEM étaient associés à la mortalité et reflétaient une déplétion du fibrinogène et du facteur 5. La fibrinolyse peut être présente après 30 minutes malgré un test thromboélastométrique normal des paramètres de fibrinolyse. Cette recherche renforce le fait que les dérèglements du ROTEM sont fréquemment observés à la présentation d'un traumatisme. Cet article peut être consulté gratuitement. Voir le résumé vidéo qui l'accompagne sur la page de l'article sur le site du journal. La gestion de la douleur après une intervention chirurgicale reste un problème répandu qui touche environ 50 à 100 millions d'adultes aux États-Unis. Le développement de nouveaux médicaments contre la douleur est difficile, en particulier ceux qui ne présentent pas de risque d'abus. Notre prochain article a examiné les résultats et les paramètres de 469 programmes de développement de médicaments contre la douleur entre 2000 et 2020. Les auteurs, dirigés par Dermot Maher de la faculté de médecine de l'université Johns Hopkins et des collègues du Massachusetts Institute of Technology, ont caractérisé les composés en développement comme ayant un potentiel d'abus élevé ou faible. Ils ont extrait les métadonnées des essais cliniques des bases des données de PharmaProject et Trial Trove de Citaline pour identifier les programmes de développement de médicaments. Les données ont été filtrées pour n'inclure que les programmes de développement clinique étiquetés comme étant développés pour les douleurs nociceptives ou neuropathiques. Les médicaments destinés à traiter les douleurs nociceptives avaient une probabilité de succès de 13% et les médicaments destinés à traiter les douleurs neuropathiques avaient une probabilité de succès de 7%. Depuis 2010, le développement de médicaments à fort potentiel d'abus a diminué, tandis que les études ont augmenté pour les médicaments à faible potentiel d'abus. Cela représente un changement de paradigme dans la gestion de la douleur, concluent les auteurs. Dans un éditorial d'accompagnement, les auteurs Michael Sina et Kelly Gillespie conviennent que les cliniciens ont besoin d'options pharmaceutiques supplémentaires pour traiter les patients en toute sécurité. Ils rappellent aux lecteurs que les efforts de recherche et de développement de médicaments sont déployés non seulement dans le secteur privé, mais aussi dans le secteur public, qui a besoin d'un financement plus important. Les conclusions des auteurs soulignent la nécessité des réformes plus substantielles au niveau fédéral. Lisez l'article gratuitement ou consultez l'éditorial qui l'accompagne. Notre étude suivante s'est déroulée en laboratoire. Les études actuelles suggèrent que l'exposition à des agents anesthésiques au cours du développement postnatal précoce chez les rongeurs peut entraîner des déficiences cognitives à long terme. Mais les mécanismes qui sous-tendent ces déficits neurologiques sont inconnus. Swati Agarwal de l'université Johns Hopkins et ses collègues ont exposé des souris juvéniles âgées de 7 jours postnatal à 1,5% d'isoflurane pendant 4 heures. Ils ont constaté que chez les souris néonatales, une exposition de 4 heures à l'isoflurane perturbait les interactions entre les sous-unités NR2 du récepteur N-méthyldéaspartate et le domaine PDZ2 de la protéine PSD95 de la densité postsynaptique. Cette perturbation a entraîné une diminution de l'activité de la protéine kinase dépendante de la guanosine monophosphate cyclique, une altération de la synaptogénèse et un dysfonctionnement cognitif persistant. Ces résultats suggèrent que l'introduction d'un donneur d'oxynitrique ou d'un analogue du GMPC in vitro prévient la perte des épines dendritiques et des synapses précoces. Leurs recherches offrent des pistes potentielles pour des interventions visant à traiter ces dysfonctionnements neurologiques, notamment les troubles cognitifs liés à l'anesthésie par inhalation. Nous passons maintenant à un autre problème courant, l'accouchement par césarienne, qui est la chirurgie hospitalière la plus pratiquée dans le monde. Les protocoles de récupération améliorés après une césarienne sont de plus en plus utilisés. Cependant, il n'existe pas de consensus sur les principaux résultats nécessaires pour évaluer et comparer les études sur la récupération améliorée. Pervez Sultan de l'école de médecine de l'université de Stanford et d'autres personnes, dont des médecins, des patients et un directeur de service de sage-femme et d'infirmière, ont réalisé un exercice de consensus international afin de développer un ensemble de résultats de base pour la récupération améliorée après une césarienne. Une approche Delphi modifiée a été utilisée. Sur les 64 parties prenantes contactées, 32 ont accepté de participer. Sur les 32 qui ont accepté, les 32 ont participé au premier tour, 31 au deuxième tour et 26 au troisième tour. Chaque résultat ayant fait l'objet d'un consensus de 70% ou plus a été retenu. Il y avait 15 résultats de base, dont la durée du séjour à l'hôpital, la conformité au protocole de rétablissement amélioré, la morbidité maternelle, la fourniture d'une analgésie optimale, les temps de jeûne, la réussite de l'allaitement et les temps de mobilisation. Ces résultats peuvent être utilisés pour concevoir de futures études sur la récupération améliorée. Enfin, nous abordons notre revue d'orientation clinique de ce mois-ci, qui porte sur les nouveaux paradigmes en matière de prévention des infections du site opératoire. Le National Surgical Quality Improvement Program classe l'infection du site opératoire au deuxième rang des complications chirurgicales les plus fréquentes. Les infections du site opératoire sont devenues la principale cause de réadmission post-opératoire et représentent le coût économique le plus élevé de toutes les infections associées aux soins de santé. Les taux d'infection du site opératoire ont peu progressé au fil des ans et, selon certaines mesures, se sont aggravés. Cette étude de Dustin Long, de l'Université de Washington à Seattle, et de ses collègues, a examiné les limites des mesures traditionnelles de prévention des infections et les nouveaux modèles conceptuels potentiels. Les auteurs notent que deux paradigmes émergents sont le rôle du microbiote du patient et la propagation de la résistance aux antibiotiques dans la population générale. Leur revue porte sur la prévention des infections du site opératoire, couvrant les nouvelles preuves scientifiques de la pathogénèse et l'évolution des approches cliniques de la prévention. Vous pouvez toujours trouver de nouvelles études et des commentaires sur le site web du journal anesthesiology.org. Si vous souhaitez en savoir plus sur la façon de soumettre un article à l'anesthésiologie, veuillez consulter notre page de conseil de soumission sur le site web du journal. Cette page offre un aperçu des attentes de nos rédacteurs et un plan directeur pour la création de manuscrits réussis. Evan Karach est heureux d'avoir pu partager avec vous les points importants du numéro de ce mois-ci et il vous remercie d'avoir écouté ce podcast. Rejoignez-le le mois prochain lorsqu'il mettra en lumière les recherches publiées dans le numéro de septembre 2022.